Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 8ème de Quoique, la radio qui fait ce qu'elle
peut.
Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 novembre 2003. Vous écoutez une émission enregistrée dans les conditions du direct que vous pouvez télécharger comme bon vous semble via le site internet www.quoique.org. Mais si vous nous écoutez, vous le savez déjà. Alors aujourd'hui, on a une équipe un petit peu restreinte. Pour des raisons de travail, de problèmes de résistance à l'alcool et de colle tout court. Vous vous comprendrez peut-être ou pas, mais tant pis.
Ou pas.
Donc aujourd'hui avec nous, il savait lire avant de savoir marcher. La légende dit même qu'il lisait déjà dans le ventre de sa mère. Méfions-nous des légendes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a passé cette dernière semaine à lire toute l'œuvre de Monsieur Dick. Et il va nous en parler, Numa.
Oui.
Bravo.
Oh, c'est restreint.
C'est restreint. Hein. Une semaine pour tout lire, bravo.
Oui, enfin, ça fait que 130 romans en fait.
D'accord.
Mais j'ai pas lu les nouvelles.
D'accord, bah t'as bien fait. Elle va nous parler du cinéma japonais par l'intermédiaire de l'un de ses plus illustres représentants, Monsieur Kitano.
Takashi Kitano,
maître. Kitano.
Maître Takashi Kitano.
Flo.
Oui.
Bravo aussi.
Bravo.
Hein.
Bravo.
C'est un véritable dictionnaire du PAF. La télévision et la tequila n'ont aucun secret pour elle. Et elle va nous parler un peu de l'histoire de la télévision. Béa.
Oui.
Bravo d'avance.
Merci.
Donc alors ça va bien?
Bah oui.
Les 15 derniers jours se sont bien passés.
Excellent.
Un peu rapide.
Un peu rapide. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier?
On se demande.
Il y a eu le Beaujolais nouveau.
Ah bon? Ah c'est pour ça que je me souviens plus de rien alors.
Vous ne l'avez pas goûté?
Ah bah, peut-être.
Hein. Peut-être.
Je sais pas, mais j'ai oublié le vendredi en fait.
Oui,
ah
voilà.
Bah pareil. Ça se trouve, on était ensemble.
Ah ouais, c'est possible.
Ça se trouve.
Donc alors vous l'avez trouvé comment cette année?
Au début il piquait un peu, mais à partir de 22h il était bon.
Oui. Ouais, c'est pareil, au bout de 2-3 bouteilles il pique plus.
Au début j'avais un peu mal au pied, à la fin ça allait.
Mais alors Flo, tu nous as ramené apparemment un Beaujolais qui pique pas.
Oui, un des rares Beaujolais buvables en France. Enfin ouais, en Beaujolais, c'est en Marseille.
Donc moi je serais d'avis de faire une petite dégustation presque en direct.
Ouais.
Je vais essayer de faire.
Donc
faire
d'abord il faut déjà que tu commences par nous servir, parce qu'on va tous goûter, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi.
Oui,
mais t'as pas ton tablier de sommelier.
Ah non, mais tu l'as pas pris mon chéri.
Ah merde.
Parce que moi, sinon, j'ai été regarder sur le site du Beaujolais officiel.
Je suis allé.
Oups. Et il disait qu'il était très bon, que c'était une année exceptionnelle. Ah, merci. Bon, on va attendre que tout le monde soit servi.
Mais je rappelle qu'ils disent que c'est une année exceptionnelle à peu près tous les ans.
Ouais. Mais là, cette année, plus.
Plus, mais là, encore plus là, l'année exceptionnelle, oui, portait un nom, la canicule.
Ouais. Voilà,
de toute façon, ils l'ont dit avant de ramasser le raisin.
Ils ont commencé leur vendange 15 jours plus tôt. Ils ont eu des dérogations pour le faire.
Et cette année, le Beaujolais n'avait pas de goût de banane, mais de framboise, paraît-il. Ouais.
Fruits rouges, noirs, des bois.
Moi, j'en ai senti un qui sentait la banane. Il n'avait pas goût de banane.
Oui, mais c'était un Beaujolais de l'an dernier, en fait. C'était un vieux Beaujolais nouveau, c'est ça. Tu t'es fait avoir.
En tout cas, il piquait.
Il piquait, moi j'ai trouvé qu'il piquait
aussi.
Beaucoup, effectivement.
Et alors, le crâne le vendredi? Parce que c'est
piquait,
ça l'important.
Il piquait aussi.
Impeccable.
Oh là là.
Non, pas un pet de jeu, moi.
Non, mais disons que pour faire passer le Beaujolais, après on a bu un peu de bière blanche. Et ça pique moins.
Et j'avais une goutte sur le doigt, je reconnais que j'ai goûté un peu en avance, c'est bon.
Donc, on va goûter ce vin, donc on va
Attends,
mettre un.
Et moi alors?
Et toi alors? Aussi.
Ah,
c'est le tien en plus, donc il n'y a pas de raison. Donc, s'il est bon, on n'hésitera pas à en faire une publicité gratuite.
Sinon, non.
Sinon, non.
De toute façon, c'est trop tard parce que là où on l'a acheté, on a pris les trois dernières bouteilles. Alors,
d'accord, ailleurs.
Oui,
donc, on va mettre un petit jingle le temps de goûter tout ça. Allez, hop, c'est parti. Effectivement, il pique moins.
Hein, quand même.
Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors ?
Je sais pas trop. Remets le Julien.
On regoute.
Ça pète le fruit, ça pète le fruit.
Oui, en fait, c'est vrai qu'il fait tindin un peu quand on le boit.
Oui, franchement, je trouve pas terrible.
Non. Un peu pareil. Il est peut-être moins mauvais que les autres.
Ah, c'est un Beaujolais nouveau, hein. Ouais. Attendez, c'est pas un miracle, hein.
Bah non, non. Enfin, déjà, il est plus nouveau, il a une semaine déjà, donc peut-être qu'il a perdu un peu.
Là, je pense, on a l'impression qu'il est coupé.
Et c'est
avec
peut-être
de l'eau.
Aussi que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de vin, parce qu'il n'y a pas de soufre dedans.
Ouais. Oui, mais moi, je bois des Touraine Primeur, des Côtes-du-Rhône Primeur, et qui. Ils sont moins forts, ils piquent moins, ils sont plus légers, enfin ils font nouveau, tandis que là on sait pas trop ce que ça fait.
Ouais, mais parce que là c'est un Beaujolais bio et c'est fait par un type qui filtre pas et en plus qui a pas peur de laisser son vin dans l'état où il est. Une année on l'a goûté, il devait faire 10,5 degrés alors que tout le monde fait 12,5, lui il châtelise pas et ça fait essayer, ils avaient 10,5 à l'arrivée.
Ce qui explique l'étiquette. Parce qu'elle est pas top, l'étiquette.
Ah non, ça, l'étiquette, elle est moche. Ah non, mais tu la reconnais.
Elle est un peu kitsch.
Elle est bien kitschouille, d'ailleurs. On la mettra, on va la scanner, on la mettra sur le site, on cachera le nom. C'est monsieur, monsieur Beaujolais Nouveau.
C'est
2003.
Marcel Lapierre qui fait ça.
Voilà. Marcel Lapierre.
Mais l'avantage, en fait, comme ça, c'est que si tu veux, quand tu vois la bouteille, l'étiquette, elle ressemble à peu près à la même chose tous les ans. Donc tu sais que t'es à un endroit où tu peux boire le Beaujolais.
D'accord.
En plus,
mais c'est pas une
pas
étiquette qui fait envie.
Ah non, non, mais il est bon.
Non, mais
enfin,
il donne
pas mal
parce que ça fait.
Moi, j'aime beaucoup. Si on fait un vote, nous sommes un peu.
Bah,
près
on vote.
4...
Alors qui est pour ouais. Voilà. Qui est contre?
Contre quoi?
Qui s'abstient? Le chat. Donc,
vous n'avez rien vu.
Voilà.
Mais...
Donc,
nous
ça fait
vous assurer que c'est impartial. Hein.
Deux personnes.
Donc 50-50.
Voilà, 50-50.
50 et puis 10%
d'absorption
pour le chat. Ouais. Donc, ça fait 110.
Oui, mais le chat n'a pas goûté. Hein. La chatte n'a pas goûté. C'est une chatte.
Quel a le chat
ouais, c'est
une chatte.
Ouais.
C'est une
chatte. Bon, j'espère qu'elle va pas courir dans les fils comme la semaine dernière. Enfin, il y a 15 jours, pardon.
Ça serait bien.
Oups. Donc, voilà. Donc on finira la bouteille après hein, parce que
oui quand même
quand on est bourré c'est tout raté alors que sobriété égale efficacité.
Ah bon?
Si il paraît.
Ah.
C'est ce que je me suis laissé dire.
Oui mais comme dit le dicton mieux vomir que dormir.
Ouais. Donc un dernier petit jingle. Un dernier petit jingle pour clore cette session Beaujolais et cette petite note d'humour.
Et de une.
Allez hop. Bon ben Numa, puisque tu m'as l'air dans une forme olympique, c'est toi qui vas commencer.
Oui mais très bien Beaujolais.
D'accord. Donc alors tu vas nous parler de Dick, pas Dick Rivers, hein, c'est autre chose.
Non, c'est pas le même Dick.
Non, c'est Pepin Rivière.
C'est un monsieur qui s'appelle Philippe Kadick.
C'est pas un Français?
Non, il est plutôt américain.
Plutôt américain?
Plutôt, ouais. Enfin,
d'accord.
Plutôt pas le chien de Mickey.
Ouais.
Non, c'est pas la peine de remettre le truc là. Donc, je suis passé par hasard la semaine dernière, je sais plus quel jour, à la Fnac. Et j'ai
pu.
Non, au BHV. Enfin, c'est pas grave.
On s'en fout.
Non, mais
non, ce qu'on allait acheter.
Dans les deux, si
non,
ça se
trouve.
Nous allions acheter 3-4 bricoles, je sais plus quoi, des interrupteurs, des machins super utiles pour faire plein de bricolage super malin.
Oui.
Et puis, hop, j'avais fini mon livre. Tiens, j'ai plus de livres à lire.
Bah c'est con.
Bah ouais, c'est con.
Surtout pour toi qui aime lire.
Bah oui.
Je le rappelle.
Oui, c'est vrai. Et donc je me suis dit tiens si je cherchais un livre alors hop il y avait un rayon avec plein de livres. J'ai commencé à regarder les livres. Puis tout à coup j'ai vu une couverture relativement moche mais par contre le titre ça s'appelait Ubique. Un Ubique.
Ouais.
Ouais. Donc
et
pourquoi
ça t'a
pas
inspiré
Ubique
quoi?
Ben j'ai lu la page 4 comme il faut toujours faire dans ce cas-là. La page 4 c'est le dos pour
le
les
dos.
Gens qui ne savent pas.
D'accord. Donc la page 4 c'est le dos.
Ouais, ça s'appelle comme ça.
Uniquement dans cette collection-là.
Non, 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 non. Je sais pas. Moi, je suis tombé là-dessus.
Oui, mais parce que dans les livres de poche, ça, c'est un. Ouais,
c'est bah, c'est, je sais pas si c'est pas un livre de poche, mais c'est un 10-18.
Ouais,
hein.
Mais dans les autres collections, ça peut être un résumé. Enfin, bref.
Oui, mais c'est toujours normalement une accroche et c'est le dos, c'est la page 4.
D'ailleurs, okay. Une voilà. Petite aparté. Qui est-ce qui décide et choisit ce qu'il va y avoir d'écrit sur la page 4? L'auteur, l'éditeur
L'éditeur,
c'est
à mon avis.
L'éditeur,
ah.
Ouais. C'est l'éditeur.
D'accord. Et voilà. Il choisit toujours bien l'éditeur?
Non, pas toujours.
Bah non,
toujours.
Justement.
Mais non, mais bon, après, si on commence à déblatérer là-dessus, on va faire long.
Mais ouais. D'accord, non, mais c'était long. Juste une petite aparté.
Voilà, donc j'ai lu la page 4, ça m'a fait envie, et hop, donc j'ai commencé le livre. Donc déjà, ça commençait par un truc comme ça. Les amis, tout doit disparaître. Nous soldons la totalité de nos ubiques électriques, silencieux, à des prix défiant toute concurrence. Oui, nous liquidons l'ensemble de nos articles. Et n'oubliez pas que tous les ubiques de notre stock ont été utilisés conformément au mode d'emploi.
Ça donc, commence bien, oui.
Donc, moi, ça m'a paru bien.
Ouais. Mais tu l'as d'accord, bah merci.
Voilà, et donc j'ai dévoré le bouquin en quelques jours et je me suis dit, mais c'est complètement déjanté, mais c'est qui en fait ce mec Philippe Kadic, que moi je connaissais
pas. Un gros inconnu en fait.
Alors j'ai tapoté sur mon petit ordinateur à la maison, j'ai fait une recherche.
Il y avait toutes les touches.
À ce moment-là, il y avait toutes les touches.
Private joke, excusez-nous.
Oui, le chat mange les touches de l'ordinateur. Encore une histoire de chat, voilà. Les chats, c'est que des branleurs.
Surtout
celui-là. Et donc, je me suis rendu compte qu'il en avait écrit d'autres, en fait, puisqu'il en a écrit 130. Il a écrit 130 romans.
Ah oui, il a quel âge?
Il est mouru.
Il est mort.
Il est mort. Et à quel âge?
En 82. Il est né en 1928, donc démerdez-vous.
Voilà, il faut faire une soustraction, c'est bien ça.
On fait comme on veut.
64. Après, 64.
C'est pas vieux, ça?
Ben non, c'est pas vieux, mais visiblement, il a eu une vie un petit peu agitée.
Donc peut-être que lui écrivait déjà dans le ventre de sa mère.
Non, mais il a commencé à écrire à l'âge de 16 ans, à peu près. Après, il a écrit des nouvelles qui n'ont pas été publiées, ça n'a pas très bien marché. Il a fait ses études à Berkeley, puis il a été disquaire. Et à un moment donné, ça a marché.
Ouais. Pour lui?
Oui, tant mieux pour lui.
Et pour nous?
Oui, mais par contre, pour en revenir à son jeune âge de décès, c'est parce que visiblement, il écrivait en prenant beaucoup d'amphétamines, sinon il n'y arrivait pas.
Ouais.
Et forcément, ça aide pas.
Hein. Ah, il en prenant beaucoup de thé. Une belge, notamment, un peu connue.
Un petit peu, oui. Mmh. Eux qui mangent des yaourts pourris, non?
Donc, qui ont explosé dans le frigo.
Qui ont explosé dans le frigo, oui. C'est un petit peu pareil. Donc, voilà. Alors, donc, pour préciser un petit peu plus sur ce personnage.
Pour préciser pour.
Oui, parle de l'illustre inconnu là, quand même, que tout le monde se rende compte qu'on n'est pas cultivé du tout.
Oui, que on est un petit peu bête parce que cet illustre inconnu, c'est lui notamment qui a fait le roman qui a servi à faire le film Blade Runner.
Blade Runner.
Ouais.
Oui. Oui, on connaît avec.
Vous connaissez
ouais. Harrison Ford, je me trompe pas.
Je sais plus.
C'était Harrison Ford.
Ouais, ouais. Oui.
C'est lui aussi qui a écrit une petite nouvelle, je crois que c'était, elle a dû sortir en 1969, qui s'appelle Le Minority Report.
Ah.
Et oui, c'était lui. Il a fait aussi d'autres trucs, mais c'est un petit peu moins connu. Après, c'est par exemple The Screamers, c'est aussi une nouvelle, mais c'est un film un petit peu plus confidentiel.
Tu m'avais pas parlé aussi d'un potentiel rapport avec Matrix aussi?
Non, avec Total Recall. Visiblement, oui, ça serait d'après ce que j'ai compris, mais j'ai pas eu le temps d'approfondir. Mais visiblement, ça serait lui qui serait aussi à la base de l'idée de Total Recall.
Donc c'est un grand inspirateur des cinéastes hollywoodiens.
Ben un petit peu qui lui ont piqué des trucs, mais en même temps, bon, autant piquer aux gens qui écrivent bien et qui font les trucs bien et qui ont des bonnes idées.
Tu as dû toucher un peu en plus en même temps.
Un petit peu. Enfin, pour Minority Report, ça m'étonnerait.
Ouais, tu rigoles, il lui remet une jolie stèle maintenant et tout. Et il a un beau marbre, des belles fleurs.
Oui, et juste pour les connaisseurs, il a eu le Balrog Award.
C'est-à-dire?
C'est un prix qui a existé quelques années, qui récompense des auteurs un petit peu bizarres.
Le Balrog
oui, c'est
comme la grosse bestiole avec des
exactement
grosses cornes,
comme,
des sabots en feu
exactement
et qui
comme,
fait très peur
oui.
Dans le Seigneur des Anneaux.
Les lecteurs de Tolkien auront compris, le Balrog, ça vient de là.
Donc le Tolkien l'a eu.
Tolkien, il a pas eu.
Oh bah c'est pas
je crois pas, faudrait vérifier, mais ça a existé que de mémoire de 79 à 87, un truc comme ça. Donc il y en a pas eu beaucoup de décernés, mais visiblement attends, les auteurs qui l'ont eu.
C'est lui
bien.
Qui l'a inspiré, il l'a pas eu. Bah c'est non. Un peu comme pour le prix Nobel.
Oui, mais il l'a pas eu. Bah enfin non. Bon, faut dire aussi, t'as vu ce qu'il nous a pondu quand même. Ça fait péter un peu.
Ça, comme les faillots.
Non, pire, mieux. Enfin, je sais pas. Donc voilà, alors il a aussi donc c'est le dernier bouquin que j'ai lu parce que j'en ai lu que deux, puis là le troisième il est en route, c'est Radio Alsmus ou Alsmus, je sais pas. Et là c'est très intéressant parce que ça parle nous sommes à cheval sur une biographie, donc c'est mi-biographie et mi-fiction. On sait pas trop où on en est dedans dans le bouquin. Alors, ouais. Comme j'ai pas fini, on va pas aller plus loin. Et visiblement, c'est à la base de la trilogie divine qu'il a écrit, qui visiblement est très très intéressant et super intéressante pour ses fans, parce qu'il y a plein de sites sur ce type-là. Il y en a tout plein partout où on peut apprendre plein de choses.
Et alors, apparemment, il a des thèmes récurrents, des choses comme ça. On peut reconnaître ses livres à la première ligne ou...
Oui, ils ont une facture de roman français. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a beaucoup marché en France. Mais bon, après, ça c'est. Quand on en lit un, on comprend. Mais c'est pas facile à expliquer.
Il fait pas que de la science-fiction, parce que c'est un peu. Ça a l'air un peu science-fiction, le truc là.
Oui, bah oui, il fait de la science-fiction, mais la science-fiction.
Il fait pas que ça.
Si, quasiment, parce qu'il a choisi ce mode d'expression là pour critiquer la société américaine, notamment sous Nixon. Notamment, il a beaucoup critiqué Nixon très fortement. Mais on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs.
Ah ouais.
On ne voit pas.
Il n'y a pas de raison.
Non, je ne comprends pas.
Et il y a peut-être un écrivain qui va nous faire des jolis bouquins sur Bush dans pas longtemps.
Je sais pas, mais je pense que c'est déjà fait.
Les ventes de bouquins, de romans, de bouquins aux États-Unis, toutes les premières places ne sont que des bouquins sur Bush.
Oui, mais moment. Directement, parce que là, c'est quand même plus insidieux, quoi.
C'est pas plus insidieux, là, c'est beaucoup de réflexions sur le double qui pourrait venir. De la mort de sa jeune sœur jumelle.
Il avait une.
On ne sait pas. Il a eu.
Il a eu.
Oui, elle est morte quand il était très jeune. Et donc, il semblerait que ça l'aurait marqué. Donc, il fait beaucoup de réflexions là-dessus. À la fin de sa vie, il va verser un petit peu dans le christianisme. Après avoir été gauchiste, après vivre, mais toujours à fond. En fait, il fait pas les choses à moitié.
Alors je serai vieux et je me chercherai un dieu pour tout me pardonner.
Non, c'est pas ça. Mais
c'est
après,
pas ça
non, mais je sais pas ce que c'est.
D'accord.
Non, c'est dire qu'on peut pas vraiment parler parce qu'il aurait fallu que je dise à peu près les centres entrements. Donc c'est pas facile.
Ouais, mais enfin, confiance, hein. C'est juste la bibliothèque qui me fait un peu peur à la maison.
Non, ça va. Il y a pas tant de livres que ça.
Ouais, c'est en train de bouquins. Ça prend
d'accord,
la place.
Un petit peu. Voilà, faut en rajouter ou pas ? Oui, il y a quelques questions.
Qui a des questions ?
Moi, j'ai pas compris ce que c'était Lubic. D'abord, il date de quand le bouquin ? Et c'est quoi Lubic ?
Je crois que là, pour comprendre ce que c'est que Lubic, il faut lire le bouquin parce qu'il a essayé de m'expliquer plein de fois et j'ai eu mille et une définitions de Lubic.
Lubic, ça serait vraiment dommage que j'explique ce que c'est.
C'est un mystère, c'est un.
Donc Ubik, c'est un roman que ça se passe dans le royaume des morts, puisqu'en fin de compte, enfin, je dis le royaume des morts, c'est pas vraiment ça, c'est plus exactement le héros est mort, mais bon, il le sait qu'après, quand il découvre un graffiti dans les toilettes qui lui indique qu'il est mort.
D'accord.
Voilà, c'est-à-dire en fin de compte, les morts
sont. Ça
n'a
pas inspiré le sixième sens.
Non. Les morts sont cryogénisés et vivent une seconde vie, dans une seconde vie mentale où ils vont se faire dévorer par Jory, qui est un adolescent mort.
Méchant.
Méchant.
D'accord.
Et il y a Ubik, mais Ubik c'est Ubik.
C'est, il est sauve.
Ubik, mais c'est pas un être, c'est Ubik. D'accord. C'est, on peut pas l'expliquer.
D'accord. Ben, j'invite tout le monde à lire Ubik. C'est assez Philippe Kadik.
Oui, mais par contre, oui, il faut
fils
quand même.
Le fils de la belle de Kadik, tout le monde le sait.
Oui, bravo. Jingle.
Non, non, je ne permettrai pas.
En tout cas, ça me fait penser un peu, vu comment tu le racontes.
Ubik, ça vient, ça vient aussi de Verber un peu. Non, c'est complètement différent.
Ah ouais.
Oui, c'est
pas le même univers, mais la c'est... même façon de faire pour analyser ce qui les entoure.
Oui. Oui.
Vas-y, continue,
précise ta pensée.
Non, mais c'est, bah, il faudrait que je le lise.
Non, c'est Ubik, c'est pour ubiquité, visiblement, mais il n'y a pas que ça. Mais il y en a.
D'accord. Et Blade Runner, tu l'as lu?
Oui.
Et alors, par rapport au film, t'en as pensé quoi?
Le film est une très bonne adaptation du bouquin. Vraiment, et c'est, mais je me souvenais pas avoir vu tout ça quand même dans le film.
Ouais.
Mais quand un roman est mis en film, souvent ce qui est important c'est l'atmosphère plus que véritablement le.
C'est difficile de retranscrire tout un livre un film.
Souvent c'est une atmosphère qui vient. Non, mais le Blade Runner que là j'ai lu, c'est extraordinaire.
D'accord, donc c'est pas très gagnant. T'invites tout le monde.
Il faut lire ça.
Ça se termine moins bien que dans le film. Ils ont fait une fin à l'américaine qui a rien à voir avec la fin du livre.
Je sais plus comment le film finit.
Plutôt bien.
Ben là, ça finit mi bien.
Mi bien, mi pas bien.
Mi bien parce qu'ils sont pas tous morts.
Ouais, il en reste une.
Oui, il en reste une. Oui, ouais. Elle est partie.
Donc ça doit se terminer pareil. Alors,
elle est
pas
partie.
La fin.
Oui, mais là, il en reste une. Enfin, bon, tu liras le bouquin.
C'est pas Highlander.
Ça donne pas beaucoup d'indications, quand même. Voilà. Oui, je voulais parler d'un autre livre, mais j'en parlerai tout à l'heure après Flo, pour rester dans.
Bah, je sais pas.
Dans le thème. Non, pour rester dans.
Tu vas pas faire 4 chroniques dans la même émission, dis donc, toi.
Ouais,
mais non,
hein.
C'était pour. Ou alors je
non,
peux.
Non, mais si, tout. D'accord, hein, tout à fait. Oui, non, mais je m'en rappelle, mais. Je suis taquin.
Ça me paraît super intelligent pour une fois que j'ai un esprit lucide.
Oui, non, mais on va en profiter justement.
Oui, oui, il faut en profiter.
Donc voilà, donc tu invites tout le monde à lire.
Tout le monde à lire les bouquins de Philippe Kadik. Kadik pour K pour je sais plus quoi.
Peut-être c'est... Kevin ou.
Non, c'était pas ça. C'était ni Kevin ni Carl. C'était un truc, un nom à dormir. Un prénom à dormir.
Dehors avec un billet de logement.
Oui.
Comme on disait
c'est
à une époque.
Pas ou un truc comme ça.
Voilà, donc il faut lire Ubik, Blade Runner et aussi il y a toutes les nouvelles donc de Dick sont
qui ont
sorties.
Été publiées depuis.
Oui, c'est tout ressorti chez De Noël en 2 tomes ou alors en 3 tomes. Ça doit être en folio.
Chez 3 Noël.
D'accord.
Voilà.
Oui. Eh ben Numa, merci beaucoup.
Mais de rien.
Hein, on
et,
l'applaudit.
Et je sais ce que c'est le cas. C'est pour pas l'appeler deux fois bite. Ils ont évité de dire que c'était qui dit.
D'accord, mais très très bonne blague aussi. Tu n'auras pas droit au jingle quand même. Donc bravo Numa, merci beaucoup.
Mais de rien, je reviendrai ou pas entre.
Tu reviendras après Flo.
En 9e semaine.
Voilà.
Ouais.
Aussi.
Ouais, cool.
Donc nous allons passer à Flo qui a l'air en pleine forme. Hein. Donc tu vas nous parler de Takashi Kitano avec un film assez déroutant par rapport au reste de toute sa cinématographie. Donc vas-y, à toi, nous t'écoutons d'une oreille attentive.
Si. Alors pour vous parler donc du film de Kitano, au cas où pour les gens qui ne connaîtraient pas Kitano, alors un petit peu sur son histoire, qui est-il? En fait, il est né d'un père proche des milieux yakuza et d'une mère diplômée. Alors en fait, il s'est retrouvé, pour ceux qui auraient vu éventuellement le film L'été de Kikujiro, c'était un petit peu ça, son père Kikujiro. Enfin Kikujiro, c'est bien le gamin. Hein. Oui, c'est gamin. Le gamin part à la recherche de sa mère avec une espèce d'adulte, si on peut appeler ça adulte, complètement dans les choux, qui a vécu à côté des yakuza, qui a claqué tout son blé, etc., etc. Enfin bref, une histoire assez invraisemblable. Et à première vue, c'est ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Et puis, ben, nécessairement, c'est parti un petit peu dans tous les sens. 1900. Il est né en 47. Il est né, oui.
1900,
d'accord. Oui, pas. Oui, ce qui en fait un auteur du XXe siècle.
D'accord, on vous expliquera tout à l'heure.
Moi aussi, oui, du XXe siècle.
D'accord. Donc je vais faire la petite aparté tout de suite. C'est que normalement, on devait faire, c'était prévu de faire un thème sur le XXe siècle. Donc il y a eu quelques désistements, mais bon, effectivement, il y a toujours un lien avec le XXe siècle. Et vous allez voir, il n'y a que Béatrice qui a fait un vrai truc sur le XXe siècle. Enfin, on va voir, on la félicitera comme il se doit. Et elle aura le droit de revenir en 9e et en 10e semaine.
Ouais.
Oui, allez.
Donc, après cette petite aparté, encore une fois, Flo, à toi, excuse-moi.
Voilà, et donc la jeunesse du petit Takeshi se passe dans un milieu assez bizarre. Et alors, malgré sa maman diplômée qui le pousse à faire des études, finalement, ça part un petit peu en vrille. Et là encore, il a raconté un peu sa vie dans un film qui s'appelle Kids Return. Et c'est l'histoire de deux gamins qui a trop fréquenté les milieux yakuza, eux aussi, finissent par partir en vrille. Et ça se termine par ces deux gamins montant un duo de mansai. Alors le mansai, c'est des jeux d'improvisation, c'est du théâtre d'improvisation qui joue sur la rapidité d'élocution.
Et Beat Takeshi est super fort en mansai.
Beat Takeshi est super fort en mansai, mais enfin bon, il a eu des débuts assez difficiles qui l'ont vraiment poussé à évoluer dans l'affaire, quoi. Pour devenir comédien, donc il est rentré dans un théâtre de striptease où on lui dit que d'accord, il y a pas de problème à condition qu'il fasse le rôle d'un travesti. Alors je sais plus exactement, j'ai pas sous la main le livre de sa biographie, mais bon, ça n'a rien à envier avec nos théâtres à nous, quoi. C'est toujours à première vue assez graveleux quand même, très vulgaire. Donc il a commencé ses rôles là-dedans, il a continué en apprenant les claquettes, les machins, etc., etc.
Les machins ?
Les machins, tout ce qui est possible d'imaginer dans un cabaret d'une qualité à première vue absolument redoutable.
Avec plein de putes partout ?
Oui, avec plein de putes partout.
C'est où ?
À Tokyo.
Ah, c'est loin.
Ah oui, c'est un peu
pas
loin,
très pratique.
En fait, c'est un peu pigal avec si j'ai bien compris, une espèce de soupçon de vulgarité entre Benny Hill et la gaffe. Enfin bref, quoi, voilà.
Ah oui, parce qu'à Pigalle, il n'y a pas de vulgarité.
Ah non, mais j'entends dans les gags, t'imagines des espèces de... Enfin, c'est comme si le Moulin Rouge à côté faisait très raffiné dans ses sketchs.
D'accord.
Voilà.
Donc là-bas, on boit, on rit.
Voilà, enfin, et on passe et on se barre et bon, tout, et voilà.
D'accord.
Enfin bon, quoi. Donc voilà, mais c'est quand même grâce à ses cabarets et au mansai où il a vraiment cartonné. Il a créé un groupe, enfin un duo qui s'appelait les Two Beat.
Les Two Beat Free, c'est lui ?
Ouais, les Two Beat Free, ouais, non, les deux beat, enfin les deux qui frappent, ou comme vous voulez, d'où son surnom, vous trouvez quelquefois Beat Takeshi.
Comme vous disiez tout à l'heure.
Voilà, c'est pour ça, et on l'appelle aussi Beat
Takeshi.
Je vous
demander pourquoi on l'appelait
Beat Takeshi.
Ça vient des Two Beat.
Ça vient des Two Beat.
D'accord.
Voilà.
Et par contre, je sais pas c'est qui est l'autre.
Je sais pas. Et
on
n'en
parle jamais.
On n'en parle jamais. Et il est jamais crédité dans les films en tant que deuxième beat, quoi, ou beat machin chose, quoi. Il l'utilise pas en surnom.
Bah, visiblement, après, il a fait une carrière solo à la télévision.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Comme ça marchait bien dans le mansai, en fait, ils ont fini par le repérer. Et il est allé rejoindre la télé dans les années 80. Et il est devenu animateur. Alors, animateur dans tous les genres d'émissions possibles et imaginables.
Takeshi ou...
Takeshi. Oh, non, Takeshi. Takeshi, le petit Takeshi devenu beaucoup plus grand. Il nous a fait un paquet d'émissions allant de l'émission scientifique à l'émission complètement gogo, toujours en tant qu'intervenant. Et
film. Tu parles du film.
Oui, je vais vous parler du film, oui, pas de problème. Donc il y a des émissions complètement gogo où c'est pareil, toujours assez graveleux, assez épouvantable. J'ai une amie qui fréquentait une japonaise qui lui a dit que Takeshi Kitano, si en France c'est quasiment Dieu au niveau du cinéma, là-bas c'était... Enfin bon, on dit pas le soir, j'ai regardé l'émission de Takeshi Kitano, non, on le dit pas.
C'est un peu le Max Pécasse japonais au Japon.
Ouais, mais je sais pas si Max Pécasse a cette audience à ce point quand même.
En France, c'est un dieu aussi du cinéma, non ?
Mais tout le monde regarde Max Pécasse.
Ouais, personne ne le dit, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas vraiment
voilà,
sûr.
Voilà, ouais, c'est vendu sous le manteau.
Ouais, voilà.
À Pigalle.
Surtout sa période porno.
La plus intéressante.
Ah, n'est-ce pas ? Donc en fait, la télé commence à bien marcher. Elle marche même toujours très bien. Il s'en sert, si je ne me plante pas, il continue de s'en servir un peu pour financer ses films. Et donc un jour, on vient le chercher pour faire un premier film. Et manque de peau, ça colle pas tellement parce que entre la télé et le film, il y a comme un problème d'emploi du temps. Donc on a fini par lui dire bon ben voilà, il faut faire le film vous-même. Donc il est rentré comme ça. Il a commencé à diriger son premier film. De fil en aiguille, il en est devenu producteur, acteur, réalisateur. Et alors, bon, bah, ceux qui ont vu ces films savent un peu à quoi ressemble Kitano. Il y a un langage cinématographique qui est très propre à Kitano. On ne trouve pas les mêmes images, les mêmes types de séquences et tout, nulle part. C'est Kitano.
C'est surtout pour moi la violence.
La violence, oui, la violence est relativement extrême, comme il dit.
La vraie violence qui fait mal avec. Où ça part pas dans tous les sens. C'est-à-dire, le mec qui veut buter un autre mec, il sort son flingue, il tire et ça fait mal.
Ça fait rouge un peu sur l'écran, mais pas plus que ça. Sauf dans son dernier film où vraisemblablement il a pris le parti d'un sourire.
Oui, il a bien rigolé. Là.
Voilà, mais.
C'est Zatoichi.
Celui qui est sorti récemment.
Oui, qui est sur tous les écrans à Paris.
Dont on a fait beaucoup de publicité dans les grands médias.
Je sais pas.
Si, ils en ont parlé aux 20h.
Ils en ont fait. Mais moi, de toute façon, tous les Takeshi, je vais voir.
Voilà. Et donc, oui, comme dit Kitano, et on le remarque très fort dans Violent Cop et dans Sonatine, la violence, elle fait mal. Quoi. Ça n'a rien à voir avec la violence américaine où Pan t'es mort. Non, là, c'est Pan. Et oula, bon sang, j'aimerais pas être à ta place, c'est toi qui es mort.
Pendant d'abord, t'as mal et après t'es mort.
Ouais, voilà, en quelque sorte.
Oui,
ouais.
Avec le mec qui meurt pendant trois plombes à l'écran. Ouais, voilà. Là, il est mort.
D'accord.
Voilà. Mais bon, cela dit, dans les films de Kitano, il y a quand même vachement d'humour. Il y a une espèce d'humour complètement décalé aussi.
C'est de la tragédie grecque.
Non,
un petit peu.
Japonaise. Ah non,
ouais, japonaise.
Japonaise.
Ouais.
Japonaise.
Ah ouais, non. Non, puis c'est génial parce qu'il intercale ça dans son film, c'est incroyable, quoi. Dans Sonatine, il y a, je sais pas, peut-être une demi-heure de jeu sur la plage avec que des gags complètement loufoques, mais des gags.
D'accord, et alors Getting Any?
Et alors Getting Any, attendez, j'y arrive, donc en 93, donc ce fameux Sonatine dont je vous parle, c'est la révélation, c'est la consécration en Occident. Il ramasse, je crois, la Palme d'Or à Cannes. Enfin bref, quoi. Tout le monde est complètement subjugué. Et alors au Japon, rien. Au Japon, rien à foutre. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Revenge. Notre cher Takeshi a fait Getting Any.
Ah.
Ah.
On y arrive.
Enfin.
Après 8 minutes 12.
Ouais. C'est vrai? Non.
Si. On attendait que ça, moi. C'est ce que j'attends. Hein.
Bon, alors, ouais, donc après ce que je vous ai dit des films de Kitano, il faut tout oublier, quoi. Getting Any, c'est un ovni. Quoi, ça valait le coup.
Non, mais t'as bien fait de nous le présenter.
Ouais, hein. Non, parce que là, quand même, c'est ça a été le choc. Parce que quand Getting Any, en fait, est arrivé.
Oui, mais attends, 8 minutes et demie, donc c'est fini, là.
Ah, bah oui. Merci beaucoup.
On m'a dit qu'il fallait que je meuble, je meuble. Donc oui, quand Getting Any est sorti sur les écrans en France, en fait, ça faisait quand même un petit paquet d'années là. Il a été tourné, il est sorti en Japon, au Japon. Merde, j'ai perdu la date.
Oui, mais
c'est mal préparé, ouais. Ça va pas du tout.
Oui. Ça fait des blancs et c'est pas donc, bien.
Donc
les blancs.
Il a fait un... voilà, ça y est, le
surtout
film est sorti.
Il a fait un bide au Japon en quelle année donc
95. Il a fait un gros bide en 95 et il est arrivé en France en 2001.
Oula.
Et ouais. Et
donc, que s'est-il donc passé?
En plus, nous partout, on lisait à chaque fois des interviews de Kitano à chaque sortie de film et tout.
Mais c'est loin, Japon.
Tel film, machin, etc. Oui, ça doit être ça. Ouais. Et puis à chaque fois, il disait ah oui, non, Getting Any est le seul film dont j'ai honte. Ah bon? Ah.
Et pourquoi donc?
Donc quand il est sorti, on s'est jeté dans la salle.
Pas de raison.
Voilà. Alors moi, je vais vous faire un résumé très simple du film. Alors vous mettez tous vos petits points. Vous serrez tous vos petits points. Vous levez des petits doigts, les deux points, il faut. Ah, ben là, tu peux pas, tu as un micro. Les index, vous les frottez comme une mouche se frotte le bout des doigts.
Les index,
Les index.
Voilà. Et vous répétez comme une mouche, baise en auto. C'est le résumé du film.
Ah, ça a l'air bien.
Très intéressant.
Ah! Ouais. Ah, un interlude téléphonique. Non, vas-y, continue.
Je croyais qu'il fallait couper le téléphone.
Ah oui, hein, je croyais. Donc voilà, donc c'est, comme vous l'avez compris, un film d'une qualité exceptionnelle. Alors, je vais vous citer une phrase aussi tirée du film, traduite en français, bien sûr.
C'est dommage.
Ah ouais, hein, dommage. Hein. Bonjour, monsieur le vendeur de voiture. Je voudrais une décapotable pour tirer un coup, s'il vous plaît.
Ah ouais.
Hein, je vous avais pas menti. Hein. Alors voilà, donc c'est donc une succession, ce film, c'est une succession de gags plus immondes les uns que les autres.
Ouais.
Ouais, hein.
Ouais.
Ouais, l'intrigue est très simple en fait. Pour avoir une fille, pour se faire des filles, il faut une voiture. Donc pour avoir une voiture, il faut de l'argent.
Ouais.
Donc pour avoir de l'argent, eh ben tous les moyens sont bons. Donc ça commence par je vends les reins de mon grand-père vivant.
Non, pas les reins, un rein
de, ah ouais, de pépé
non,
vivant.
C'est sympa.
Parce que sinon grand-père il sera plus vivant.
Ah ouais, voilà, ouais. Et merde, ça rate. Il faut trouver autre chose.
Non, parce que... ça rate.
Non, ça rate.
Ça rate Académie.
Le coup de la voiture, ça marche pas, quoi.
Oula. Alors là, ça vaut un petit jingle, excusez-nous. Jingle connerie.
Ouais.
C'est pour moi ?
Oui, c'est pour toi, c'est toi.
Tu sais qu'à l'heure, tu touches.
Et que tu oublies ta serviette. Tu trembleras de partout. Et petite sœur, ta cliquette.
Voilà. Merci Béa pour ce petit interlude.
Je vous en prie.
Voilà. Tu peux reprendre.
Donc je reprends. Donc alors on a dit que la voiture, le coup de la voiture, ça a raté pour tirer des filles. Donc après, mais reste l'avion parce que c'est bien connu. Quand on voyage en première, toutes les hôtesses de l'air sont nues pour servir les gens assis dans la première classe. Donc ça y est, s'imagine le grand film, etc. Donc vous imaginez un peu l'ambiance du film.
Il faut faire acteur aussi. Parce que l'acteur, ça gagne plein de pognon et ça se fait plein de gonzées, cet acteur.
Voilà.
Là, oui, il paraît. Oui.
Tous les coups sont bons en fait pour faire du blé et tous les coups sont bons pour terrifier le spectateur qui est accroché à son fauteuil et qui se demande qui regarde.
Et d'où une scène magnifique quand il est acteur, une scène scatologique extraordinaire avec des jets de merde, c'est extraordinaire.
Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, il y a beaucoup de merde dans ce film.
Oui,
c'est
pipi
très bien,
caca quand même.
Très très fort pipi caca.
Pipi,
nous sommes dans
caca, cul,
c'est l'humour
argent.
Oui, c'est l'humour gras japonais. C'est... Donc moi je savais pas, j'ai lu la biographie, on me parlait d'humour gras japonais, qu'est-ce que c'est, et j'ai vu le film et maintenant je sais.
On sait.
D'accord.
Voilà, nous sommes minables en humour gras. Donc en fait, l'apothéose du film, ça vient quand même de la rencontre du héros avec un savant fou et qui décide donc de transformer notre pauvre héros en homme invisible.
Ouais.
C'est la grande expérience qu'il souhaite faire. Alors homme invisible, c'est bien parce que pour approcher les gonzesses, impeccable.
Bah oui.
Impeccable.
Et donc la première chose qu'il fait, c'est il va dans un
hammam. Il s'échappe et il se cache dans un hammam. Et manque de peau, pouf, non, c'est plus tard qu'il redevient. Enfin, il redevient visible, donc il faut refaire l'expérience. Et la manque de peau.
Après,
vous vous souvenez tous de la mouche de Cronenberg?
Oui.
Et ben là, pareil. Une mouche dans le truc. Et là, il se transforme. Là c'est grandiose. Nous arrivons au croisement du film La Mouche et Xor. Et alors là, donc, je vais demander à Béa.
C'est les effets spéciaux.
Je vais demander
spéciaux
à Béa de nous décrire donc La Mouche Xor.
Donc les effets spéciaux magnifiques de Spectroman,
oh, c'est
pas vrai, etc. Ah oui, donc c'est extraordinaire.
Vas-y, raconte-nous ce que tu vois là.
Bah, photo truquée avec une.
Non, c'est pas truqué. Hein. Le mec, il se balade vraiment comme ça tout le temps.
Bon, bah, c'est un mec. Alors qui fait une grimace de babouin, mais il a un masque.
Non, une grimace
non,
de
il a
mouche.
Pas un masque, hein. C'est une mouche. C'est un homme mouche.
C'est l'homme mouche.
C'est l'homme mouche que tu regardes là. Tu contemples.
Mais
l'homme
non,
mouche.
Il a un bonnet avec deux gros yeux dessus.
Mais c'est des yeux de mouche,
de...
Béin.
Bah
c'est
oui,
homme,
mais
il
est déguisé.
Avec une mouche.
Mais qu'est-ce qu'on raconte ? Elle est déguisée.
Mais alors, t'as jamais vu Xor ?
Ah ben voilà, c'est
ça
pareil.
Fait longtemps.
Ouais, bah c'est pareil.
Le shérif de l'espace.
Ouais,
oui,
voilà.
Oui. Et donc là, on a des les effets spéciaux sont dignes de Spectroman, Xor et donc de tous les mangas,
toutes les grandes séries mangas japonaises des années 80,
qui ont parfumé notre enfance.
Voilà. Donc
du 20e siècle.
Quand je dis parfumé, c'est
parfumé le 20e siècle parfaitement.
Oui.
Et donc, il est évident qu'on ne peut pas laisser un homme mouche voler au-dessus de Tokyo, donc il faut l'attraper.
Ça fait des ordres.
Et comment on fait ?
Comment on attrape une mouche ? Hein, je vous le donne en mille. Oh, avec
un tas de
du bégon.
Non.
Voilà, avec un tas
de
merde.
Ah, mais déjà raconté.
Voilà.
Et donc, ils vont faire quoi ?
Et ils récupèrent donc toute la merde de Tokyo qu'ils mettent dans un stade.
Toute
et là,
la merde du Japon.
Du Japon, pardon.
Oh.
Ouais. Hein ? Un stade de merde pour attirer une mouche, ça laisse rêveur. Hein.
Rêveur.
Je dirais pas ça comme ça.
Plutôt cauchemardesque.
Donc, etc. Donc là, il y a le magnifique tas de merde avec la manifestation des quatre du savant fou. Et, enfin, je sais,
le savant fou, son assistant et les parents de l'homme mouche.
Voilà, donc ils sont quatre avec des panneaux. L'homme mouche est un être vivant. et donc sauver l'homme mouche, mais l'homme mouche va se poser sur le tas de merde et va être aplati par des tapettes à mouches géantes. Mmh. Donc là, on est vraiment. Ah non, c'est extraordinaire.
Taper dans la merde, c'est avec la bousse.
Ah, mais ça, il nous l'a pas fait. C'est
avec la bousse, les Japonais.
Oui, ça oui.
C'est peut-être un des rares trucs qui manque dans ce film, quoi. Voilà.
C'est loin, le Japon.
Heureusement.
Heureusement. Hein.
Donc voilà. Alors c'est déplorable parce que les Japonais n'ont vraiment aucun sens de l'humour, parce que c'était vraiment un film vengeance. Et ça a pas marché. Alors je vais vous raconter ce que ce pauvre.
Non, oui, mais attends. C'est pas un film vengeance. C'est un film où Kitano se moque de tout.
De tout, de lui, du Japon.
De lui, du Japon, du cinéma hollywoodien. Il démonte tout avec un humour à prendre au premier degré.
Voilà. Alors, ce qu'il en dit lui-même, c'est j'ai fait ce film pour foutre la merde dans le cinéma japonais. C'est assez réussi. Voilà, c'est vraiment un mauvais film que personne ne veut voir car il pue. Voilà.
C'est vrai.
Etc, etc. Et voilà.
Alors, et est-ce qu'il passe quelque part?
Alors,
de temps en temps.
Mais il est sorti, on ne l'a pas revu en fait depuis 2001. Nous, on ne l'a pas revu sur les écrans. À chaque fois qu'il y a une rétrospective, on cherche, on guette.
Parce que nous, on veut aller le revoir, mais ils ne veulent pas le passer.
Voilà.
Ah bon?
Non.
Et en DVD, tout ça, j'imagine que
on peut le trouver en DVD. Moi, j'ai vu des sites qui disaient je cherchais Getting Any, je pensais ne jamais le trouver et je l'ai trouvé, etc. Alors j'ai regardé. Alors ça vaut pas cher. J'ai vu le DVD, il est à quoi, 7,99$. Mais bon, j'avais peur de me retrouver avec un de
8€.
Ouais, et qui marche pas en France.
En VO, en
japonais sous-titré, ce qu'on veut.
Donc japonais sous-titré anglais et pas dans la bonne zone, donc on peut pas le lire.
Voilà. Non,
d'accord,
mais bon, il y a d'autres moyens de le trouver.
Voilà. D'accord.
Sur internet.
Bah Flo, merci, tu nous as beaucoup tu nous as donné envie d'aller le voir ce film.
Mais j'espère bien.
On peut pas. Merci.
Mais si nous allons organiser,
nous allons nous démerder, nous ferons une projection intime.
Voilà.
D'accord, bah j'espère.
Inscrivez-vous
que...
sur quoi que.
Bah, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer. Alors merci, on pourrait l'applaudir quand même.
Oui. Hein.
Donc maintenant, Béa, qui va nous faire une chronique Ah non, Manuma, tu voulais pas nous parler d'un petit truc avant? Je suis désolé.
Non, c'est pas grave. C'est parce que c'est un truc fait par un japonais.
Ah bah écoute, restons dans le japonais. Mais alors rapide. Hein.
Mais on va faire rapide. Alors donc ça s'appelle IQ. C'est fait par un type qui s'appelle Hisashi Sagaguchi.
C'est un livre.
Non, c'est un manga, c'est une bande dessinée, mais c'est un livre aussi. Hein.
Ah, d'accord.
Voilà, ça raconte l'histoire d'un maître bouddhiste, donc du zen.
C'est de la théologie, alors.
Non, mais on va pas rentrer là-dedans, mais Bouddha n'est pas un dieu. Bouddha est un humain.
D'accord.
Et un homme.
D'accord.
Voilà. Donc juste pour vous donner envie, je vais juste lire un petit passage. Donc c'est-à-dire les 5 devoirs du zen. Donc j'ai d'abord vous citer les vrais. Donc les 5 devoirs du zen sont la contribution, le respect des préceptes, la tolérance, la dévotion, la concentration. Donc IQ a un petit peu arrangé ça. Donc c'était un passant qui lui demandait quels sont les 5 devoirs du zen. Donc il répond. Les 5 devoirs du zen édictés par le monstre de ce temple sont tels un sabre de bois. Ils empêchent les gens de vivre sans toutefois les tuer. 1. Laisser entrer les gens dans le temple. 2. Faire un enseignement sur la corruption. 3. Ressortir les thèmes bouddhiques moisis. 4. Attirer les riches avec des recueils de solutions. 5. Vivre au-dessus de ses moyens grâce à la vente des sceaux. Et lui ensuite, il va préciser les 5 grands thèmes du zen selon IQ qui sont 1. Maison de plaisir. 2. Beuverie. 3. Beuverie. 4. Beuverie. 5. Beuverie. Donc c'est du zen que moi j'aime bien.
Effectivement.
Voilà.
Donc l'eau à la bouche, enfin l'eau ou autre chose.
Oui, ou le saké. Il en boit pas mal. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça relate toute l'histoire du Moyen-Âge au Japon. Tout le Moyen-Âge au Japon est décrit à travers second plan du manga.
Le 20e siècle.
Il n'y en a pas.
D'accord.
Si, si, le manga, puisque le manga.
Le manga est du 20e siècle.
Voyons. D'accord, tout à fait.
Non. Voilà, donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on découvre le Moyen-Âge du Japon, si on ne connaît pas. Et puis un petit peu le bouddhisme, parce que moi je ne connais pas, ou le zen, parce que moi je mélange un petit peu tout. Et c'est très très intéressant, c'est très drôle, c'est un personnage qui est très touchant, c'est triste aussi, mais c'est merveilleux.
Voilà, donc
c'est à lire. Et par contre, au niveau de l'édition, il y en a une qui a préféré quand même, c'est celle que j'ai,
le format manga,
le format manga chez Glénat. Donc faut pas aller se faire avoir avec le format géant qui est de moins mauvaise qualité.
Ouais, c'est Vent d'Ouest qui a fait ça, c'est bon.
Vent d'Ouest a fait
un agrandissement
et ouais. L'image est de très mauvaise qualité.
Non, elle n'est pas très mauvaise qualité, disons que ça correspond plus au manga.
Oui, elle est, non mais elle est moins bonne, c'est clair, et c'est pas le format du manga et c'est plus cher.
Ouais.
Et donc vaut mieux aller prendre les quatre petits chez Glénat.
Ouais,
chez Glénat.
Je voudrais faire un rectificatif quant à ce fameux moine IQ. Bon, c'est rigolo l'histoire de la beuverie, etc. Mais c'est quand même un type qui s'est attaché, enfin qui est rentré, qui est le fils caché d'un empereur. Et qui a donc été complètement éloigné de tout son rang, toute la vie qu'il aurait pu mener, qui est envoyé très tôt à 6 ans dans un monastère et qui s'attache vraiment au zen, à la recherche du zen profond, et qui dénonce en même temps les abus,
les pratiques du temple, des monastères de l'époque.
Voilà, c'est en fait
il va pisser au sens propre sur les temples et au sens figuré évidemment, parce qu'il est évidemment il est très provocateur. Mais il vit aussi dans une époque au Japon que j'ai découvert, mais c'est vraiment chez nous c'était de la gnognotte, hein. Là ils se foutent sur la gueule, mais c'est des querelles de pouvoir, c'est hallucinant. Ils se font trucider, ils se font,
voilà, avec des monastères à peu près dans l'état de l'église en France au moment de la Révolution française, quoi.
D'accord,
voilà, donc c'est très bien.
Eh ben d'accord, on le lira alors, hein. Hein, Béatrice?
Oui hein.
Je te sens un petit peu sceptique.
Non.
Excuse-moi, j'ai pas tout suivi.
Bon, bah, Béatrice, nous allons te suivre maintenant.
Non, mais c'est une fausse sceptique.
Ouais. D'accord, bravo.
De rien.
C'est il fallait que quelqu'un la fasse.
Et avec moi.
Donc, Béatrice.
Oui.
Toi, tu vas nous parler. Tu vas nous parler de la télévision. Et un petit peu l'histoire de la télévision.
Ouais, bah justement, comme normalement le sujet, ça devait être le XXe siècle, le thème de l'émission.
Mais c'était.
C'était. Je parlais d'un cinéaste du XXe siècle qui prolongera dans le XXIe siècle.
Oui, n'insiste pas.
Non, moi, je n'avais pas envie de faire une chronique chiante sur l'historique de la télé avec des dates, machin et tout. Donc finalement, j'ai préféré me creuser le ciboulot pour vous trouver des questions. Un petit quiz. Sur la télévision. Bon, je suis quand même un petit peu plus restée dans ma propre mémoire, donc dans la vôtre aussi normalement, plus sur les 40 dernières années, parce que
c'est cool. Là, j'ai mes chances.
Je vais te prendre ton tableau là avec vos noms. Je vais compter les points.
Tu vas compter des points et tout.
Dernière moi-même.
Alors normalement, c'est à la radio, dans les jeux radio, c'est comme ça qu'on fait. Pour que si vous voulez répondre, il y a pas de buzzer. Hein. J'ai pas de buzzer, pas encore, parce qu'il y a un jeu d'ailleurs qui est sorti sur un quiz télé. Il y a des buzzers.
Bah on peut faire.
Donc comme je vais le demander au Papa Noël, vous reviendrez.
Tu vas bien faire le buzzer.
Non, vous
allez. Tu nous as fait chanter la dernière fois, tu vas bien faire le buzzer.
Non, vous allez normalement énoncer votre prénom avant de donner la réponse. Le premier qui donne son prénom répond. Mais je sens que ça va être le bordel de toute façon. Donc.
Je sais pas. Moi, j'en suis presque quasiment sûr. Mais on va essayer, on va essayer. Allons-y, bon. Allons-y.
Et bah c'est parti.
Ça y est, c'est parti comme ça, direct là.
Bah ouais.
Mais on va pas finir l'émission avant.
Oula. Bah c'est pareil, celle-là. Un grand classique devant l'éternel.
Ça marche toujours.
Donc commence.
Bah vous êtes prêts?
On est prêts.
Ouais. Qui présentait le grand échiquier?
Jacques Chancel. David. Je me suis trompé.
Jacques Chancel n'est pas présent sur ce plateau. Hein, faut préciser quand même.
C'est David Tonvert.
Et Tonvert n'a jamais présenté le grand échiquier.
Ah non.
De qui était la musique qui servait de générique à l'émission politique L'heure de vérité?
Jean-Michel Jarre.
Non.
Ah non.
Non, évidemment.
Oh merde. Oh zut.
Non, non,
non,
non, non,
non plus. Oh zut, j'ai dit.
Défécation.
Mais.
Petit indice, c'est quand même un des qui reste des Beatles.
C'est pas vrai.
Eh ben, vous avez qu'une chance sur deux, hein, c'est encore
McCartney.
Un vivant. McCartney, oui, merci.
C'est pas vrai.
Bah si, Levan Leigh Dyke,
évidemment,
qui a été repris
d'abord.
Par plein de gens comme les Guns N' Roses, mais Levan Leigh Dyke, c'est pas le McCartney. Ouais. Je sais pas si je l'accorde le point. J'ai pas d'arbitre. Julie, le chat.
On va demander à la chatte.
Allez, un point pour Nouma.
Ouais, you, youpi.
Quels étaient les noms des deux familles qui s'affrontaient dans la série américaine Dynasty?
J'en sais rien du tout.
Ah, évidemment, ils étaient peut-être plus Dallas.
Ouais, ouais, ma grand-mère Dynasty. Était plus Dallas que Dynasty, c'est cramé.
Ah là,
là, je suis cramé. Là, je
ah là, ouais, Dynasty, moi, j'ai pas suivi. Là.
Ah, célèbre série de Aaron Spelling qui a vu les débuts de Heather Locklear, quand même. Vous savez, la belle blonde.
Ouais.
Non
oui.
Non
oui,
parce
oui,
qu'elle
oui.
Le vaut bien.
Oui.
Bah, c'était les Carrington et les Colby.
Ah, ah.
Ouais, non, bon, bah, tant pis. Là, hein. J'ai été séché, là. Faut quand même avouer.
Bon, alors, plus facile. Dans quel jeu télévision présenté par Christian Morin pouvait-on faire banqueroute?
La roue de la fortune.
Bravo.
Yes.
2 points pour David.
Ouais, c'est nul, j'allume ma cigarette, je pouvais pas répondre.
Ah, bah, banqueroute.
Quelle était la particularité du film diffusé uniquement à la télévision dans les années 80 et présenté par Pierre Tchernia, Le Monstre du Lac?
3D.
Ouais.
Oh,
bravo, grâce à des lunettes. On
oui,
avait tous l'air
oui,
fin
oui.
Là devant la télé.
Oui, oui, ouais, moi je m'en
mais
souviens.
Pas dans la dernière
terrifiant,
séance.
Terrifiant.
C'était pas dans la dernière séance.
Non, c'était un peu spécial. Ils avaient fait une grande campagne de pub avec je sais plus
mais
quel magazine.
Je les ai encore les lunettes.
Tout.
Je
moi
les
aussi.
Ai retrouvées il y a pas
moi
longtemps.
Aussi. Moi j'ai plus les lunettes, mais je me souviens. On en avait parlé au CM2, je devais.
Et il faut quand même avouer que c'était un très mauvais film.
Très mauvais,
grandiose, mais film culte parmi les 3D.
Extraordinaire.
Mais voilà.
C'est
super
c'est
carton pâte, mais bon, voilà.
Le monstre, ouais, le monstre, il est génial.
Ils l'ont même
le
passé en festival.
Surtout sa main.
Ah, ouais. Surtout sa main, c'est vrai.
Bon, je vois que ça a marqué quand même. On continue. Qui était Pause Café dans la série du même nom?
Véronique Jeannot.
Bravo. Attention,
ah, ça fait sûr,
devancer.
Ça fait sûr.
D'ailleurs, je voulais rendre un petit hommage à Jacques François qui est mort ce matin.
Ah bon?
Oui, à 83 ans. Il était le proviseur.
Ce
oui,
matin,
oui, oui.
Il n'est pas série. Mort hier non plutôt.
C'était hier matin.
Ouais, non, c'est mercredi.
Oui, mercredi
midi.
Mercredi
midi.
Le 26 novembre.
Oui, j'ai vu ça et ça m'a attristé parce que Jacques François était vraiment un acteur qui a fait beaucoup
de second
plan,
mais
beaucoup de
vraiment très méchant.
On le voit dans tout plein de.
On le connaît dans Le Père Noël est une ordure. Il fait le pharmacien. On le connaît aussi dans Mes meilleurs copains.
Oui, on l'a parfois.
Où il fait le père de Clavier quand il était jeune.
On l'oublie un petit peu parce qu'il a jamais eu de premier rôle, mais on le voit partout.
Mais il est extraordinaire.
Mais par contre, tout le monde ne connaît pas son nom, mais tout le monde connaît sa gueule.
Bah voilà.
Voilà.
Ça, c'est une.
C'était une petite parenthèse.
J'ai la notée.
Tous les grands second rôles que le cinéma français nous a donné.
Ouais. C'est vrai que lui.
Voilà.
À
toi, Jean Carmé.
Ouais. À toi, un bon verre de rouge.
À toi, Maurice Biro.
Mais bon, c'est bon.
Spécial dédicace.
Oui.
Bon, on continue.
Oui.
Oui.
Qui a composé la musique du Capitaine Flamme?
Capitaine Flamme.
Bernard Minet.
Ah non.
Non, c'est non.
Il en a fait d'autres.
Jean-Michel Jarre.
Pour sa femme. Il en a fait plein d'autres.
Jean-Jacques
pour sa
Debout.
Voilà.
Oh, trop facile.
Bravo.
Vous avez laissé une chance de répondre quand même. Bon, enfin bon.
Quelle star de la chanson française a-t-on
Jean-Jacques Debout.
Jean-Michel Jarre.
Attends.
Chantal Goya.
Bernard Minet.
Non. A-t-on pu entendre chanter Émilie Jolie dans l'école des fans alors qu'elle n'avait que 6 ans?
Vanessa Paradis.
Christine Ockrent.
Ouais, vous êtes nuls les deux autres, là on entend ton verre. Ah. Qui sont Paul Michael Glaser et David Soul?
Starkey Hutch.
Oui, mais il a dit, trop vite.
Bah, voilà.
Bah oui, mais
c'est
alors
nul,
ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour ton verre, 1 point pour nous.
Donc
pour
vous laisser une chance, je vais boire un petit peu de Beaujolais.
D'accord, vas-y, donc vas-y, je lis une question. Dans quelle émission de Jacques Martin a-t-on découvert Laurent Gérard et Virginie Lemoine?
Je sais pas, Dimanche Martin.
Non.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'était un truc le dimanche, hein.
Oui.
Sûrement.
Oui, oui, c'était le dimanche, mais je me souviens plus du titre.
Hein. C'était la, après dimanche Martin, c'était quoi?
Des petites marionnettes.
Un siphon fonfon.
Un siphon fonfon. Allez, je l'accorde à Nouma.
Yes.
Alors, qui double Kermit et qui double Peggy la cochonne dans les Muppet Show?
Roger Carrel.
Ouais. Et Peggy la cochonne.
Peggy la. Je sais pas, Michel Roux.
Qui siffle très bien.
C'est Chantal une... Goya.
Ah, c'est.
Brune.
Celle qui siffle là.
Qui
oui,
siffle
oui,
très bien.
Oh là là.
Le train.
Le train
ouais,
aussi,
ça
ouais.
Ça, la voiture 4.
Le facteur. Ah, bah, j'ai perdu son nom. Bah oui, j'ai perdu son nom. C'est quelqu'un
Micheline.
Pour m'aider. Dax.
Dax.
Voilà.
Du nom de.
De la feria.
Non, de la ville thermale où se déroule une feria très connue. Et elle n'est pas que thermale. Enfin bref.
Pas que.
Non, je crois pas, non. Alors, question pub maintenant. Qui était fou des chocolats de l'an 20
Dali.
Bravo.
Salvador Dali.
Oui, Salvador.
Oui, parce qu'avant, il était fou de quoi?
Du Perrier.
Non.
De chez Lindt.
En vrai, qu'est-ce qu'il avait dit?
Je sais plus.
Qu'il était fou de la gare de Perpignan.
Le centre du monde. Ah.
Qui n'a rien d'extraordinaire pourtant, la gare de Perpignan.
Oui, mais c'est le centre
oui,
du monde.
Ok.
De même c'est une que... phrase comme ça, comme c'est je vous ai compris, Ich bin Berliner ou des trucs comme ça.
C'est pareil, ouais, non,
vive le Québec libre.
Oui, pougnérissons dans
des phrases.
Du monde.
Bah, pour votre phrase, on va chercher un homme politique maintenant. Il y en a sûrement dit.
Jean-Michel Jarre.
Aussi. Quel homme politique a-t-on pu voir comme candidat dans La tête et les jambes?
Jacques Chirac.
Non.
Giscard.
Non.
Mitterrand.
Non.
Raymond Barre.
Santini.
Non. C'est marrant, pourquoi vous êtes tous à droite là?
Je sais pas. Tapie.
Jospin.
Non. Non, on se rapproche.
Jacques Lang.
Non.
Fabius.
Voilà. Réponse collégiale.
Ben il est pas là.
ah.
Oui, ah, série américaine. Hein. Comment s'appelle ma sorcière bien-aimée?
Ma sorcière
Samantha.
Samantha
ouais.
Bravo! Nouma remonte.
Merde.
Ouais, tu te fais griller sur le fil. Qui était le seul être humain de l'émission pour enfants Les 4 amis.
Fabrice.
Bravo!
Bah oui.
Ah, c'est celui qui regarde des films de cul à la maison?
Ah, je sais pas.
Si, si, mais il a dit sur RTL. Mais faut écouter
ah,
RTL.
Oui, d'accord.
Ah, bon, il est toujours sur RTL?
Celui rien, qui a fait. Moi. Tu la as valise. Pas posé de questions sur la, oui, la valise.
Moi, j'en
sais
rien.
Fabrice.
Moi, j'en sais rien. Je dis ça de y a longtemps. Hein.
Oui, oui, à mon avis, ça fait longtemps. Hein. Il est pas mort, Fabrice?
Non, non,
bah
non, 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 maintenant il est gros.
Ah, voilà.
C'est juste avant, ça.
ça commence comme ça.
Alors, lui par contre, il a pas tant que ça grossi. Qui nous présentait des gens peu ordinaires dans sa chronique dans l'émission Le Petit Rapporteur? Il trouvait
oula.
Toujours des gens pas possibles, genre
Daniel Prévost.
Non.
Non non.
Non.
Oh, shit.
Genre un vieux qui entendait rien du tout avec son appareil là
Philippe.
Et qui lui racontait
Castelli.
Non. Non, non, mais je sais pas, je vois qui c'est, mais je me souviens pas
non,
de son nom.
Moi, je vois pas qui faisait
Micheline
ça.
Micheline Dax.
Mmh.
Non, c'était pas ça.
Oh, je suis surprise. Pierre.
Pierre Arditi, ça va lui faire plaisir.
Non, Pierre Desproges, il faisait pas ça. Hein.
Non.
Pierre, non. Ah non, non, je me rappelle
c'est
pas
ça,
de
il était, mais il faisait pas ça, c'est pour ça.
Pierre
il...
Bonte.
Voilà, Pierre Bonte.
Il
oui,
nous a
oui.
quand même présenté des gens fabuleux. C'était mieux que Striptease ou C'est mon choix maintenant.
Oui, oui je me souviens de son super sourire.
Et puis il était d'une gentillesse et d'une patience en plus.
Ouais.
Ah bah oui,
enfin,
mais c'est
bon.
Un métier. Hein.
Oui. Que s'est-il passé lors de l'émission apostrophe de Bernard Pivot quand, l'émission où il y avait Cavana et Bukowski.
Eh ben, Charles Bukowski est venu, il a bu 5 bouteilles de blanc, puis eh ben, il allait se coucher.
Bravo.
c'est mon domaine quand même.
C'est son héros.
Ah bah ouais.
Non pas trop mais c'est quand même il a quand même écrit
oh bah
Pulp
ouais.
Il a quand même écrit Mémoire d'un vieux dégueulasse et Pulp un superbe
l'entre de la folie.
Oui c'est, ouais mais moi j'aime c'est... beaucoup Pulp. Hollywood magnifique Hollywood.
Mais je préfère quand même Cavana qui était là aussi.
Mais,
qui
oui,
l'a
mais
un petit peu jeté quand même.
Oui, mais forcément. Mais par contre, après, il y a eu toute une polémique, comme quoi on connaissait, il connaissait le penchant pour Bukowski, oui.
Et qui soi-disant et... il lui avait fourni les bouteilles de blanc.
Mais bon, connaissant Bukowski, il est peut-être venu avec aussi, hein, quand même.
Bah hein. Oui, c'était pas le genre de se laisser mourir de soif.
Non, bien pas sûr. Trop, non. Mais
il y,
mais,
en a,
mais,
il y en a d'autres.
Mais c'est vrai qu'ils ont pu le tenter aussi, hein, histoire de faire un petit peu de dimat.
Ça m'étonne, Bernard Pivot. Mais bon. On peut pas savoir.
Il n'y a plus rien qui m'étonne.
Oui, mais là, c'était quand même. Bon,
oui, mais c'était quand même si rigolo.
C'était la bonne époque.
Bon, allez, question suivante, là, on se refroidit.
Question suivante. Comment s'appelait le lion qui louchait dans Daktari?
Dalida. Daktari.
Non, c'était un lion.
Dalido, alors.
Pourtant, je trouve que c'est un nom de film.
Joe Dassin.
Clarence. Ça vous dit rien?
Non. Mais Daktari non plus d'ailleurs.
Bon bah tant pis. Hein.
Si, moi je me souviens quand je voyais le générique changer de chaîne, ça me faisait chier.
Bah au moins, non, ça.
Non, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Moi j'aimais pas Daktari. Hein,
bon bah on continue avec une question pub alors.
Ouais, cool. Ouais.
Quelle actrice avale une CX dans une pub signée Jean-Paul Goude?
Grace Jones.
Bravo, ouais. Parce que je vous en ai parlé il y a 15 jours.
Ouais. Ah bon?
Bah, fallait écouter. Hein.
Oui. Ah, facile.
Actrice, chanteuse ouais. Et avaleuse de d'AX.
C'est X, ah, c'est plus gros. Parce que c'est vrai qu'elle avait une grande bouche. Enfin bref. Qui présentait le top 50 sur Canal+?
Marc Toxica.
Bravo.
Bonjour les petits clous.
Salut. Ouais.
Salut. Salut, salut les petits clous.
Salut, les petits clous ouais.
Nuance.
Comment... C'est Nono qui mangeait des petits clous dans Ulysse 31.
Oui, c'est ouais. Vrai. Ouais,
ouais. Tu n'avais pas de question sur Ulysse 31. Oh, on t'a pas trouvais... une question là.
Je trouvais ça trop facile. Bah, ouais. J'ai pu vous en voulez une. Comment s'appelle le vaisseau spatial de Ulysse 31?
L'Enterprise.
Non.
Non, ça c'est Doctor Trek.
Non, c'est parce que je m'en souviens plus.
Ah, ah bah zut alors, le.
Galactica.
Non, non.
Non, c'est pas ça.
Ah bah alors ça alors
l'eau. Avec le gros œil.
Oui.
Oui.
Merde. Et nucléaire.
L'Odyssée.
L'Odysseus.
L'Odysseus.
Et son moteur et son ordinateur de bord.
HAL. Ah non c'est pas ça c'est non. 2001 l'Odyssée de l'espace.
Je crois que c'est Shirka.
On a parlé un peu la
Shirka,
dernière
ouais,
fois.
Je crois que c'est ça ouais.
C'est comment
qui, Shirka, que, Igor que... et Shirka Bogdanov.
Ah bah tiens, cette question-là, j'aurais pas à la poser.
Oh là là, tu nous grilles des questions.
Ah pardon, bon, on dit plus rien, vas-y, pose
bon, on continue.
Des questions.
Jean-Michel Jarre.
Comment s'appelait la petite émission, enfin si on peut appeler ça une émission, la petite minute de Pierre Desproges?
Monsieur Cyclopède et la minute de Monsieur Cyclopède.
La minute
nécessaire. De Monsieur
je donne Nicolas. Le point à Numa.
Bah attends, c'est une réponse collégiale. Nécessaire. Il a juste dit nécessaire, moi j'ai dit tout le reste.
Bah attends, j'ai l'intégrale à la maison. Je sais que ça me.
Bah, j'aurais pu dire l'autre, s'il avait dit là, elle aurait eu un point aussi.
Non, parce que j'attendais nécessaire.
Ouais, non, ça
non,
c'est trop
non,
facile.
Non, c'est très important.
Ouais, c'est nécessaire.
De toute façon, tu vas pas râler. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Ton verre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour Nouma. Flo, tu en connais les réponses, il faudrait être un peu plus rapide.
Mais non, mais je connais pas toutes les réponses.
Ou 69.
Alors celle-là...
Moi, je m'en fous, j'ai 7, j'arrête là.
Celle-là, c'est peut-être une question de rapidité. Événement, qu'a fait Serge Gainsbourg en direct du 20h qui a choqué la France entière?
Il a brûlé un billet de 500 francs.
Il a...
Et pourquoi il l'a brûlé son billet de 500 francs?
Parce qu'il payait trop d'impôts.
Voilà. C'est ce qui restait. Il m'a presque resté sur un billet... Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Non, non, juste le pognon.
Le pognon, c'est tout.
Enfin, c'est ce qu'il dit dans la chanson. Hein, d'ailleurs.
Oui, enfin, c'est pas lui qui le dit. Bon. Enfin,
mais c'est pas lui qui l'a écrit.
C'est
même,
pas lui qui le dit, mais c'est lui qui y est.
Chat.
C'est un peu ça, ouais. Quelle chanteuse présentait l'émission jeunesse Vitamine?
Sabine?
Naturel. Non.
Vitamine.
Ouais, c'est vous pas savez ça, pas de vitamine.
Ça me dit rien du tout.
Moi, je m'as gouré.
Ouais, ouais, tu t'as gouré, ouais.
Bon, c'est pas Dorothée.
Un peu plus sexy que Sabine Paturel. D'ailleurs, maintenant, on n'a plus le droit de l'appeler comme ça, mais je me rappelle pas son vrai nom.
Ah.
Douchka.
Non. Non, elle présentait Disney Club.
Ouais, ouais. Ouais. Prince. Si on n'a plus le droit de l'appeler comme ça non plus.
Non, on n'a plus le droit.
Karen.
Cheryl.
Bah oui.
Bon, faut plus l'appeler comme ça.
Non, elle a repris son vrai nom, mais comme c'est un nom d'une banalité,
bah, genre Nathalie avec un
Dubois,
billet,
bon,
bah,
personne ne retient.
Mais tout le monde la connaissait sous ce nom-là, faut pas changer.
Bah, ouais.
Oui, non, si, si elle est encore connue, quoi, parce que bon.
Bah,
elle
n'est mais...
pas morte. Non.
Elle s'est pas fait appeler Jeanne François.
Question
carrière,
ouais.
Mais je sais pas. J'ai...
Elle a fait Fabrice ou elle a grossi aussi, non?
Ouais, ça doit être ça.
Donc. Allez, encore, t'as encore beaucoup de questions,
j'en ai
en
encore.
Ouais, y a plus de Beaujolais.
Le time.
Six questions. Quels acteurs incarnaient les héros des Saintes Chéries? Là, c'est beaucoup plus vieux, c'est du noir et blanc. Début des années 60.
La vache, oui.
Alors, il y a Daniel Gélin.
Bravo. Et elle est connue aussi.
Oui,
elle est très connue aussi.
Oui, mais Daniel Gélin, il fait pas une des Saintes Chéries.
Non.
Je sais pas, j'ai jamais vu, je sais même pas de quoi ça parle.
Moi non plus.
Par contre, sa fille. Il
pose des questions. Non, mais
je
moi,
me souviens plus du prénom.
Je me souviens.
C'est Sonia. Fiona. Elle aurait pu faire une seule chérie.
Oui. Alors c'est encore une Micheline. T'es très en vogue à l'époque.
Micheline. Micheline. C'est pas. Y a pas. Darrel, Carrel.
Non.
Ça sonne pas dans ce sens. Genre,
non.
Oui.
Oui.
Non, c'est Jacques Pradel. Presse.
Agrume.
Micheline.
Prel.
Bah voilà.
Ouais.
Micheline Prel.
Oh là là,
bon, je mets un demi-point pour le Daniel Gélin, c'est ça?
Et moi alors?
Oui, mais t'as pas dit Prel.
Ah oui,
dans
tu
le
peux
micro.
Ouvrir l'autre bouteille
ah bon,
de Beaujolais.
Prel trop loin du micro? Zut.
Non, mais Flo disait qu'il y avait que nous deux qu'on buvait.
Mais oui, David en voulait plus, il est retourné au muscat.
Non, mais enfin bref.
Je peux finir?
Oui, fini. Parce qu'en plus.
Comme ça, après, j'irai chercher le tire-bouchon.
D'accord, vas-y.
Alors,
on
finit.
On déborde.
Quelle émission nous a fait découvrir Pierre Palmade et Michel Larocque?
La classe.
Bravo, présenté par.
Fabrice.
Comment s'appelait la vendeuse de bonbons dans L'île aux enfants?
La classe.
Fabrice.
Non,
Fabrice. Mais non, vous savez, elle était dans son petit machin au milieu, là.
Odile.
Non.
C'est de rue, ces âmes.
Comme le chat qui est dans la maison, là.
Julie.
Voilà.
Pietri. Ève, lève-toi.
Vous pouvez pas demander le nom de la concierge de la rue ces âmes la...
Non, par contre, dans quelle émission jeunesse
est
pouvait-on voir la marionnette Albert
Dupontel.
Dans quelle émission? Mais tu viens de le dire.
Ah, à rue Sésame.
Bah voilà.
Voilà.
Allez,
ouais.
Un point pour Flo, ça fait 3.
Oui.
Et pour finir, qui a été le premier speakerin de la télé?
C'est un nom anglo-saxon. Nelson. Non, c'est pas Nelson. Non, c'est machin truc.
Il a même fait partie de l'équipe de Dorothée.
Oui, c'est
après,
Patrick Simpson Jones.
Bravo. Ah ouais, on finit en beauté.
Ouais.
Et il fallait le retrouver celui-là.
Ah bah,
bah voilà,
là,
donc on fait les
facile,
comptes.
Hein.
Bon ben
les
1,
comptes
2,
sont
3,
bons.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
Ouais, tu nous as même pas parlé, tu nous as même pas posé de questions sur les chiffres et les lettres.
Bah non, bah alors vous allez me chanter la chanson.
Ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
ta
ta ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
Ah bah voilà.
Bah forcément si on
donc,
lui pose des questions qui et puis
bah,
que
tu faisais
elle,
tu faisais ta famille.
Ah bah ouais, bah non.
Ta famille faisait pas partie des 3794 postes de télévision en noir et blanc qui existaient en 1950.
En 50.
Vous vous rendez compte, c'est ridicule, 1950, 3700, 3800.
3800.
3800 postes
poste
de télévision dans toute la France.
Oui, mais ma maman me racontait que quand elle était petite, donc dans cette période-là, mais même après, elle allait voir la télé chez le curé qui avait la télé.
Oui, mais il y avait
ou dans le
bistrot, une personne du quartier
voilà,
qui avait la télé.
Il y avait une personne dans le village qui avait la. Et souvent, donc, c'était soit le curé, soit le cafetier ou un notable.
Il
n'y
a même pas eu de questions sur Interville, je ne le crois pas.
Guy Luxon.
Trop facile, trop facile. Vous connaissez tous les présentateurs. Bon.
Non, mais
non,
je me suis foutu, salope.
Donc, Béatrice, Merci beaucoup.
Mais de rien.
Hein, c'était très bien. Hein, faudrait faire des petits jeux comme ça à chaque fois, pas forcément qui durent 20 minutes. Mais,
ah, quand même.
Ah bah oui, quand même. Hein.
Oui, il faudrait nous ramener un tire-bouchon aussi.
Ouais, aussi. Ouais, hein. Bah, on va là, finir peux, d'abord.
Ouais.
On va finir.
Il est quand même convenable ce Beaujolais avec des étiquettes moches.
Il pique un peu et on dira demain pour le crâne. Hein.
Ah non, normalement t'as pas mal au crâne avec ça.
T'as pas mal au crâne avec ça.
Pour ce qui est de l'estomac, quand t'as bu 3-4 bouteilles dans la même soirée, je dis pas. Mais le crâne, non.
Mais
ça
t'es
va.
Pas obligé.
Voilà, non, on n'est pas obligé.
Non, on est pas.
Donc voilà, bah écoutez,
bah,
ça vous a plu?
Bah ouais, finalement, hein, c'était sympa. Ouais. Quatre,
nous
hein.
Aussi, hein.
Moi je sais pas, j'ai pas écouté.
Hein. Ouais. Ouais. Bah ouais, ça c'est bien entendu que t'avais pas écouté. Des fois. Et d'ailleurs, on a oublié quand même de dire quelque chose de très très important, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même l'anniversaire de Numa.
Ouais,
happy birthday to you, ta ta ta. Happy birthday to you, Numa. Et là, le gâteau arrive. Le Kazakh vert.
Avec le champagne.
Ça va être surtout un tire-bouchon qui arrive,
ouais. Le tire-bouchon.
Donc, bah, félicitations.
Et d'un autre côté, il ne peut pas grand chose.
C'est pas fait exprès. Hein.
Ça te fait quel âge? Alors maintenant, est-ce que t'as encore l'âge de dire ton âge?
Moi, j'ai toujours l'âge de dire mon âge. Hein, ça fait 30.
30 ans? Oh là là.
Mais pas toutes mes dents.
Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé pour tes 30 ans?
Qu'est-ce que ça fait?
Ce qui m'est arrivé.
Ouais, ce matin, en voulant te raser.
Ah oui, j'ai eu un super cadeau sous mon nez, caché sous ma moustache naissance, un magnifique spot.
Oh, magnifique, on se voit rentrer dans le noir chez toi quand tu es sous.
oui, on peut, ça permet de mettre la clé dans le trou de la serrure.
Bah oui,
c'est très pratique.
Ouais, super.
Bah, c'est très saillant.
C'est Flo qui te l'a offert.
Ah ouais. Je me suis entraîné toute la nuit. Toute la nuit, j'ai posé quelques microbes et tout.
Non, c'est très joli.
Félicitations.
Donc, félicitations et encore un joyeux et magnifique anniversaire.
Bah oui, ça nous changera des seminaires.
Bah voilà, ouais. Donc c'est un concept très intéressant. Mm-hmm. Le seminaires, c'est si vous êtes né un mardi, bah, tous les mardis, c'est votre seminaires. Si vous êtes né un 27 comme Numa, tous les 27, c'est votre moisersaire. Et voilà, ça fait encore quelques petites occasions de faire un peu la fête et de s'amuser entre amis.
Comme s'il en manquait. Hein.
Voilà.
Ah bah oui, on en manque.
Donc voilà, bon, cette émission est finie. Hein. On était que 4, mais on a réussi à faire autant de temps que d'habitude.
Ah ouais, c'était fort. Beau.
Donc je voudrais encore remercier monsieur Yann Beaujouan qui nous a fait les jingles.
Ouais.
Hein. Et moi, je veux un gros gâteau avec une fille à poil dedans.
D'accord, ben, ouais. T'auras ni l'un ni l'autre.
Moi, la fille à poil, on doit encore pouvoir s'en rendre.
Démarre
ouais,
avec
cool.
Ton spot, et voilà. Allez, eh bien, messieurs, dames, on va vous souhaiter un bon 15 jours. Voilà. On va se retrouver à peu près dans 15 jours ou dans 4 mois, enfin, on verra. Hein.
Ouais.
Environ.
Et puis, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.